Vous aurez certainement entendu parler, durant les dernières semaines qui se sont écoulées, de la loi séparatisme initiée par le gouvernement. Un texte dans lequel des amendements et articles proposent le port du voile interdit pour les accompagnatrices de sorties scolaires, le port du voile interdit pour les mineurs, le port du voile interdit dans les compétitions sportives, les piscines qui peuvent désormais interdire le burkini dans leur règlement, les réunions en non-mixité interdite, et je vais m'arrêter là dans cette liste dressée par Marwa, étudiante en sciences politiques, sur son compte Instagram Par nos voix, qui a listé tous ces amendements votés par le Sénat dans le cadre donc de cette loi séparatisme le 12 avril dernier. Au risque d'être taxé d'islamo-gaucho et tous les autres trucs en haut que vous pouvez ou voulez y accoler, il apparaît clairement que cette loi bafoue le principe de laïcité. D'après le Centre National de Recherche Textuelle en droit, la laïcité est le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse et d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. Et c'est dans ce contexte politique que sort dans une semaine, le 30 avril prochain, Musulmane du Monde, un livre signé Élise Saint-Julien, illustré par Elka Imani et publié chez Face Cachée, une maison d'édition fondée en 2015 par la journaliste Wafa Mamesh avec Bakary Sako et Paul Odona.
J'ai vu en fait qu'il y avait, maintenant ça se fait de plus en plus des livres avec des femmes inspirantes et j'avais remarqué que souvent dans ces livres-là, il n'y a pas beaucoup de femmes musulmanes à part Malala qui est très connue, mais sinon je voyais qu'il n'y en avait pas énormément et je me dis que ça serait bien en fait de les faire connaître pour pas qu'on parle toujours des mêmes et que aussi elles puissent entrer un peu dans l'histoire en fait. Parce qu'il y a des femmes qui ont marqué l'histoire dans le livre, des femmes musulmanes qui ont marqué l'histoire, mais malheureusement, leur histoire n'est pas connue. Et je pense notamment, j'en parle souvent, mais à Nour Inayat Khan, qui était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale en France, qui était aussi d'origine britannique et indienne, et qui s'est vraiment sacrifiée pour la liberté en Europe. Malheureusement, elle a été exécutée à l'âge de 30 ans, et elle a vécu une partie de sa vie aussi en France. Aujourd'hui, il y a une école qui porte son nom à Suresnes, mais en fait, c'est vraiment une femme dont on devrait parler dans les livres d'histoire pour tout ce qu'elle a apporté à la France. Donc voilà, pour moi, je pense que oui, je voulais mettre en avant plus de femmes musulmanes pour qu'on les connaisse plus.
La voix de l'autrice Élise Saint-Julien, que l'on entendait à l'instant, journaliste société spécialisée en droit des femmes et religion. En sa compagnie, nous allons décortiquer l'envie évoquée à l'instant de créer un tel ouvrage. Elka Imani est quant à elle architecte paysagiste de formation et illustratrice engagée. Nous verrons ensemble l'intérêt de prendre part à un tel projet et le rôle de l'illustration dans les représentations et l'imaginaire collectif.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler toutes les deux de votre collaboration? Comment ça a été initié?
En fait, c'est moi qui ai eu l'idée de ce projet au départ, et en fait, je voulais vraiment une illustratrice musulmane, puisque ça allait bien dans l'idée du livre, puisque c'était de présenter des femmes musulmanes, et donc j'ai choisi Elka Imani parce que, en regardant un petit peu ce qui se faisait sur Instagram, les dessinatrices musulmanes, je suis tombée après sur son travail et du coup, le fait qu'elle dessine beaucoup de personnages issus des minorités, ça m'a intéressée et après voilà, je lui ai proposé de me rejoindre sur ce projet et de dessiner les femmes que j'avais choisies.
C'est vrai qu'au début, tu m'as envoyé les textes en premier. J'ai pu lire un petit peu et l'idée du projet m'a vraiment hypée parce que c'était vraiment... pour moi, c'est mon premier projet éditorial, mon premier projet de livre. Et ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir travailler sur cette thématique. Et du coup, oui, au début, on a choisi un portrait, on a créé une planche test. Et ensuite, à partir de ça, Élise a commencé à démarcher des maisons d'édition.
Puisque la question des maisons d'édition arrive maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi Face Cachée.
Moi, je connaissais en fait par une amie cette maison d'édition. Et je la trouvais plutôt bien parce que c'est une maison d'édition indépendante qui a à cœur vraiment de mettre en valeur justement des parcours hors du commun. Ils ont plusieurs biographies déjà de personnes. Et donc, je pense que ça répondait à mes attentes. Et voilà, ils ont une certaine ouverture d'esprit. Et parce que, voilà, après, je sais que le mot musulmane, parfois, peut... Enfin, quand on parle d'islam, c'est toujours un peu compliqué. Et du coup, ils ont été vraiment très ouverts, très réceptifs au projet. Donc, ça, c'était vraiment super.
J'aimerais savoir aussi pourquoi vous avez choisi de confier la préface à Samia Orosmane.
En fait, on voulait une femme musulmane française, une autre française pour le livre. Et on voulait une femme aussi musulmane qui soit... comment dire, qui soit fédératrice en fait, et on s'est dit que Samia Orosmane c'était vraiment une femme qui fait beaucoup, un travail très positif pour casser les clichés sur les femmes musulmanes, sur les femmes qui portent le voile, et elle a un public vraiment qui est très large, et je pense qu'elle fait à peu près l'unanimité, et on se disait que c'était intéressant, en plus son parcours est intéressant aussi parce que elle porte le voile et justement voir comment elle a réussi donc à monter sur scène, à faire ses propres textes, à se faire connaître, ça n'a pas été facile. Et donc du coup, on s'est dit que ce serait bien qu'elle puisse faire la préface pour que elle-même en fait soit aussi un modèle pour les jeunes en France.
Puis aussi, il y avait l'idée que on a vraiment essayé d'avoir une diversité de métiers dans le livre, et c'est vrai que humoriste, artiste d'une certaine manière, bah on n'avait pas, donc ça collait aussi parfaitement de ce côté-là.
Donc finalement c'est 30 femmes musulmanes plus vous trois qui sont au cœur de ce livre Musulmanes du monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous avez choisi ces 30 portraits qui sont dans le livre?
Alors en fait, c'est moi au départ qui ai choisi la plupart des portraits, même si après ça a un petit peu évolué. Enfin, j'ai aussi demandé l'avis de Elka Imani. Mais en fait, j'ai choisi ces 30 portraits, plutôt des portraits de femmes contemporaines, pour que les adolescents puissent davantage s'identifier à ces femmes. Il y a quelques femmes du passé, mais voilà, j'avais plus envie de mettre en avant des femmes contemporaines qui sont pas du tout connues. Et puis, je voulais vraiment aussi qu'on voit la diversité des femmes musulmanes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi vraiment des femmes qui viennent de plein de pays différents. On a une vingtaine de pays différents pour montrer que être une femme musulmane, c'est pas simplement être arabe, c'est aussi être kurde, européenne, ouïghour, etc. Et montrer aussi toute la diversité, c'est-à-dire voilà, des femmes qui portent le voile, d'autres qui ne portent pas, une femme réfugiée, convertie, etc. Donc, il y avait ça. Et puis aussi, choisir aussi des femmes, un maximum de femmes qui font des choses très différentes. Donc, on a des scientifiques, artistes, militantes, entrepreneuses, etc., pour que vraiment les adolescents puissent se dire qu'ils ont un champ... large en fait, qui peuvent faire plein de métiers, plein de choses, et donc ça aussi c'était important, et voilà, il a fallu en choisir 30, et c'était pas facile, parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient être dans ce livre, donc voilà, après j'essaie de choisir aussi selon moi ce que ça pouvait m'inspirer, leur parcours, et en me disant, bah tiens, ça pourra inspirer aussi des adolescents.
Ouais, c'est dans l'idée, on ne parle pas de la femme, on parle des femmes. Donc, il en va de même pour les femmes musulmanes. Et Kaimani, j'imagine que dans l'illustration, c'est aussi ça qu'il a fallu faire passer, cette diversité.
Oui, ben, c'était un des challenges de ce projet, en fait. C'était vraiment que graphiquement, on ressente la diversité. Donc, tout le travail des couleurs de peau, des traits du visage. C'est vrai que c'est quelque chose que moi, je pratique régulièrement dans mon travail du dessin, mais là il fallait que ça soit vraiment poussé pour que chacune en fait on puisse ressentir sa personnalité, pas juste son origine sa couleur de peau, mais aussi qu'on puisse avoir des femmes pleines de personnalité, et dont chacune en fait a vraiment ses caractéristiques particulières, et ça on le ressent aussi beaucoup à travers les illustrations que j'ai faites.
Dans le texte de présentation, Élise, vous avez écrit « Leurs histoires, trop souvent tombées dans l'oubli ou invisibilisées, sont pourtant ton héritage. » Vous adressez au lecteur ou à la lectrice. Et ça rejoint un peu ce que Samia Rosman a écrit aussi. « J'aurais tant aimé, étant plus jeune, avoir accès à un livre comme celui-ci pour avoir des modèles auxquels m'identifier. » Là, l'idée, c'est vraiment d'offrir un panel de femmes qui peuvent autoriser à s'imaginer n'importe quel avenir.
Oui, en fait, c'est très important d'avoir des modèles parce que, par exemple, Ibtihaj Mohamed, donc, qui est escrimeuse, elle explique à un moment que à son époque, il n'y avait pas d'athlètes musulmanes de haut niveau. Et qui porte le voile. Et donc, du coup, elle se sentait un peu seule, entre guillemets, et elle aurait aimé, en fait, avoir un modèle comme ça. Donc, elle a quand même poursuivi sa carrière, et voilà, s'est dit, bah, je serai la première, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est important, en fait, d'avoir des modèles. Et c'est vrai que, souvent, leurs histoires n'ont pas été racontées ou ne sont pas racontées. Et par exemple, on a la médecin et gynécologue Tawida Bencher, qui est tunisienne. Il y a eu un billet de banque tunisien qui a été à son effigie seulement en 2020, alors qu'elle est décédée, je crois, en 2010, qu'elle a fait un travail énorme en Tunisie au niveau de la santé des femmes. Et c'est dommage, en fait, que souvent, voilà, on leur rende un hommage un petit peu tard, en fait, qu'on découvre leur histoire un peu tard. Et alors qu'en fait, oui, c'est vraiment important.
Elka Imani, vous dites dans la présentation, dans l'introduction du livre, que la première musulmane que vous avez fréquentée, c'est votre mère. Est-ce que ces portraits de femmes aussi, vous auriez aimé les avoir en tant que petite fille qui connaissait déjà cette religion et qui pratiquait peut-être déjà cette religion aussi?
Oui, c'est vrai que moi, c'est ma maman. Et donc, j'ai pratiqué l'islam depuis toute petite. Mais quand même avec une grande ouverture d'esprit parce que donc ma maman est convertie. Donc, c'était vraiment la religion, en fait, sans peut-être les aspects culturels qui, des fois, viennent s'y mêler. C'est vrai que j'aurais aimé avoir ce genre de livre parce que je pense qu'un modèle, ça suffit pas. Et c'est ça qui est intéressant avec le fait d'avoir plusieurs femmes et pas juste un ouvrage qui met en valeur une femme. C'est parce que je pense que pour se construire, on a besoin d'avoir plusieurs chemins, on a besoin d'avoir le choix. Et ma maman, voilà, c'était une femme, elle a fait ses choix dans sa vie. Et moi, quand je suis devenue femme, j'ai eu des choix à faire. Et peut-être que si j'avais eu plus de modèles, j'aurais peut-être choisi différemment, ou peut-être que j'aurais pas abandonné, par exemple, le dessin pendant 9 ans pour seulement m'y remettre maintenant.
Parce que justement, vous avez dit, en tant que jeune femme musulmane, c'est peut-être pas forcément un milieu dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir.
C'est ça, en fait. Déjà, c'était un petit peu compliqué avec une partie de ma famille sur le sujet, parce qu'il y a plusieurs avis religieux concernant la représentation. Et aussi, il y avait ce truc de je suis déjà une femme musulmane, racisée, dans un contexte français très particulier. Est-ce que j'ai ma place dans des écoles d'art? Est-ce que je vais réussir à y faire un chemin? Avec déjà tous ces handicaps, entre guillemets, considérés comme handicaps, parce que pour moi, c'est pas du tout des handicaps, c'est mon identité, en fait. Ça m'aurait renforcé, en fait, dans mon envie de poursuivre une carrière artistique.
Est-ce que, parmi ces 30 portraits de femmes, il y en a que vous connaissiez déjà, l'une comme l'autre, ou est-ce que ça a été 30 découvertes ?
Pour ma part, j'en connaissais quelques-unes, déjà parce que, en tant que journaliste, j'avais déjà travaillé pas mal sur ce sujet-là, sur le sujet des femmes, de l'islam. Donc, par exemple, il y en a une que j'ai interviewée, Bouchra Baïbanou. Bon, il y en a une que j'ai interviewée, mais qui finalement n'est plus dans le livre. Mais voilà, j'avais fait quelques articles déjà sur certaines. Mais ces femmes-là, je les ai connues que très récemment. Et après, j'ai quand même fait énormément de recherches aussi pour trouver toutes ces femmes, parce que c'est vraiment pas évident. Que ce soit dans des livres ou sur internet, il n'y a pas forcément, enfin, on trouve pas forcément tout de suite des femmes inspirantes, parce que il y a beaucoup d'articles polémiques en fait sur les femmes musulmanes. Donc ça a été beaucoup beaucoup de travail de recherche en fait, parce que même en anglais surtout, parce qu'il y a déjà un peu plus de ressources. Mais c'est vrai que oui, j'en connaissais déjà quelques-unes, mais j'ai fait beaucoup beaucoup de découvertes et même moi c'était hyper enrichissant. Vraiment, ça m'a beaucoup apporté aussi, beaucoup inspiré.
Et puis moi, je pense que j'en connaissais 3-4 dans tout le lot. Et pareil, c'est vraiment à l'âge adulte en fait que j'ai découvert ces femmes. Et c'est majoritairement, en tout cas sur ces 3-4, il y en a 3 qui sont en fait des femmes modernes. Et qui font partie déjà du paysage des femmes inspirantes musulmanes.
Bon, ça dit bien quand même tout le manque de représentation qui existe partout, que ce soit dans les médias, dans la littérature, ou un peu partout en fait autour de nous, on n'entend vraiment pas assez parler des femmes et des femmes musulmanes, encore moins. Élise, la première femme musulmane que vous avez côtoyée, là aussi vous l'expliquez dans l'introduction du livre, c'est une femme qui va devenir votre meilleure amie et qui va changer radicalement votre vision de cette religion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'est vrai que je connaissais pas grand-chose de l'islam ni des femmes musulmanes. C'était la première fois donc que je parlais avec une femme musulmane qui porte le voile. Et je pense que oui, j'avais quelques préjugés, beaucoup d'ignorance sur ces sujets-là. Et moi, ça m'a vraiment apporté personnellement. Et c'est là, en fait, c'est grâce à ça que je me suis intéressée en tant que journaliste aux droits des femmes déjà, mais aussi à l'islam, aux droits des femmes musulmanes, leur place. Et oui, ça a été vraiment une rencontre très importante qui m'a vraiment ouvert l'esprit. Et en fait, le sous-titre du livre, justement, c'est « Rencontre à la rencontre de femmes inspirantes ». Et pour moi, cette rencontre avec une femme, enfin avec cette femme, a été très inspirante. Et j'espère qu'il y aura aussi d'autres non-musulmans qui pourront lire ce livre et qui partiront à la rencontre justement de ces femmes en oubliant un peu qu'elles sont musulmanes, qu'elles portent le voile, et vraiment s'intéresser à qui elles sont, à ce qu'elles font, à leur réussite. Et voilà, c'est ce que je souhaite aussi.
Mais du coup, je me demande pourquoi vous avez placé ce livre, pourquoi vous l'avez imaginé avec le prisme de la religion, à travers ce prisme-là.
Alors, en fait, pour moi, en fait, justement, je ne voulais pas que ce soit un livre religieux. Donc, les femmes, en fait, ne parlent pas de leur religion, de leur foi. Après, j'ai choisi les femmes musulmanes parce que je voulais justement qu'on casse un peu les clichés de la femme musulmane qui est soumise, qui n'est pas libre, qui obéit uniquement à son père, à son frère, etc., qui est dans sa cuisine, et vraiment montrer des femmes musulmanes actives qui changent le monde, qui sont... voilà, qui apporte vraiment beaucoup à la société. Et donc, c'était cette idée-là. Mais voilà, je sais qu'il existe aussi un livre sur les femmes juives, par exemple, qui ont marqué l'histoire de la France. Donc voilà, pour moi, c'est aussi un angle comme un autre, même si, pour moi, je pense que c'était important de mettre en avant les femmes musulmanes parce qu'il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés sur elles. Donc, je pense que c'était important.
Vous dites que vous êtes vous-même, entre-temps, devenue musulmane et que du coup, ça vous tenait encore plus à cœur de mettre ces femmes en valeur.
Oui, parce que voilà, c'est vrai que ça me touche et je me dis que pour pour les générations futures, pour mes neveux, pour mes nièces. Je pense que, voilà, moi, je me disais, il faut vraiment faire ce travail. J'ai envie que ce livre voit le jour. Je pense que ça sera très bénéfique pour aussi donc pour les jeunes musulmans. Et oui, ça me touchait énormément. Oui, effectivement. En plus, j'ai rencontré moi-même des femmes inspirantes dans mon parcours de convertie. Donc, pour moi, c'était vraiment dans une logique, une certaine logique, ouais.
Donc finalement, c'est en vous spécialisant autour des droits des femmes et de cette religion que vous avez changé votre regard aussi et que vous avez choisi de vous convertir, c'est en apprenant ?
Oui, moi j'ai besoin vraiment d'apprendre, de comprendre les choses. Alors après, bien sûr, ça reste une question de foi, hein, la conversion, mais c'est aussi en fait comprendre, adhérer à un message. Et donc, par exemple, c'est vrai que je me suis vraiment renseignée sur la place des femmes dans l'islam, parce que pour moi, c'était très important, en fait, de savoir. Et c'est là où j'ai rencontré donc cette féministe marocaine, Asma Lamrabet, qui m'a vraiment beaucoup apporté, parce que dans ses livres, en fait, elle explique que c'est la vision, en fait, patriarcale du Coran qui fait que c'est pas l'islam en fait qui a un problème avec les femmes ou qui les oppresse, mais c'est vraiment cette vision patriarcale qu'on a pu avoir, cette lecture du Coran que elle justement elle a relu le Coran en fait dans une perspective féministe et c'est vrai que c'était vraiment ça m'a beaucoup apporté.
Donc aujourd'hui, l'une comme l'autre, vous êtes convaincue qu'on peut être à la fois féministe et musulmane?
Oui, je pense que ça fait pas de doute pour moi. En fait, je dirais même au-delà de ça. Enfin, pour moi qui ai grandi dans l'islam, il n'y a jamais eu à un seul moment le doute que c'était pas possible, en fait.
Oui, pour moi aussi. Pour moi, ça me paraît évident de par les recherches que j'ai faites, de par les personnes que je connais, les femmes autour de moi. Voilà, pour moi, oui, ça me paraît aussi une évidence.
Est-ce que selon vous, il fallait que vous soyez deux femmes musulmanes pour produire un tel livre ? Est-ce qu'il y avait besoin que vous écriviez de cette place-là, de femmes musulmanes, pour mettre en valeur ces 30 autres femmes ?
Ouais, je vais répondre du point de vue de l'illustratrice. Pour moi, oui, c'est important parce que aujourd'hui, dans le paysage de l'illustration français, la plupart des illustrateurs dessinent des personnages blancs, normés, et il y a encore trop peu de livres avec des illustrations où on a des personnages noirs, des personnages asiatiques, des personnages de telle ou telle confession. Donc oui, pour moi, c'était très important de... En fait, ma place à moi, elle a fait que je m'intéresse à dessiner des personnages divers. Et c'est pour ça aussi que ce projet, il m'a extrêmement appelée. Donc pour moi, oui, il y a vraiment la place qu'on occupe. Elle définit la manière dont moi, j'ai travaillé ce livre. Il y a toujours un risque quand on n'est pas concerné et qu'on écrit sur un sujet... de se retrouver, et moi je le vois beaucoup dans l'édition française de manière générale, quand il y a certains auteurs qui s'emparent de problématiques très sensibles comme le racisme ou l'islamophobie ou l'antisémitisme et qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils ne font pas les recherches nécessaires, et là j'entends du point de vue graphique comme du point de vue d'écriture, on se retrouve avec des objets qui font très mal aux concernés. Donc c'est là où pour moi c'est intéressant que les auteurs soient les auteurs autrices ou illustratrices illustrateurs soient déconcernés, parce que quand on est déjà concerné par l'un des problèmes, je trouve qu'on a tendance à plus réfléchir, à plus faire de recherches et surtout à se mettre dans le point de vue de je suis une personne qui est discriminée, est-ce que on continue de me discriminer à travers quelque chose qui est censé me célébrer, ou alors au contraire, est-ce que pour une fois je vais être célébrée à travers cet objet qu'est le livre ?
Bon, j'imagine que ce livre, vous y travaillez depuis longtemps, que sa sortie a été programmée de longue date aussi. Mais finalement, il tombe presque bien, entre guillemets, par rapport à l'actualité politique française. Comment vous vous positionnez, vous, dans cette actualité, Élie Saint-Julien et El Khaimani?
Bah, en fait, je dirais que des actualités sur les femmes musulmanes et surtout qui portent le voile, en fait, il y en a régulièrement. Malheureusement, ça fait plusieurs années que je constate que on s'intéresse beaucoup, en fait, aux femmes musulmanes qui portent le voile. Il y a beaucoup de polémiques, Décathlon, Mariam Pouchetou, Ménel, etc. Et en fait, c'est toujours les mêmes polémiques qui reviennent. Et moi, je trouve ça un peu triste. Et justement, en tant que journaliste, j'avais envie de faire quelque chose qui soit beaucoup plus positif parce que j'étais fatiguée, en fait, d'entendre toujours les mêmes débats et les mêmes polémiques. Et j'avais vraiment envie qu'on voit vraiment les femmes musulmanes, qu'on les entende, qu'on voit tout ce qu'elles font. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des amendements qui, pour moi, ne sont pas vraiment féministe parce qu'on devrait en fait accorder le droit à toutes les femmes en fait de s'habiller comme elles le souhaitent. Donc c'est pour moi c'est un petit peu triste et j'espère que ce livre pourra apporter une note un peu positive et peut-être un peu d'espoir.
Ben je dirais un peu comme Élise. C'est vrai que entre guillemets maintenant ben il y a un livre, il est là, il va exister. Et il n'y a pas d'excuse pour inventer des vies aux femmes musulmanes, qu'elles portent le foulard ou qu'elles ne le portent pas. Et ça serait bien de sortir de cette espèce de psychose qui entoure les femmes musulmanes qui portent le foulard, pour en avoir fait les frais personnellement, puisque je porte un foulard. On aimerait bien que ça s'arrête et qu'on puisse être considérées comme des citoyennes comme les autres. Et pour moi, c'est ça le féminisme, en fait. Et puis voilà, plus personne n'a aucune excuse pour dire que les femmes musulmanes sont le ramassis de clichés qu'on entend en permanence, que ce soit dans la bouche des politiques ou de certains médias.
L'illustratrice El Khaimani, en conclusion de cet entretien, El Khaimani que je remercie, ainsi que Élise Saint-Julien, l'autrice de ce livre « Musulmane du monde ». Merci également à Nadia Boucheni, elle aussi journaliste, éditrice chez Face Cachée et cofondatrice de Dialna pour la mise en relation « Musulmane du monde » précommandable et en librairie le 30 avril prochain.